Mercredi matin. Soleil éclatant.
La cour.
Audition des parents de l'accusé.
Le père d'Abdel se révèle être un vieux monsieur usé, verrouillé dans une sorte de solitude accablée.
Il a travaillé comme ouvrier toute sa vie et aujourd'hui, à 67 ans, est à la retraite. Il a eu 3 fils d'un premier mariage. Il se remarie avec celle qui devint la mère d'Abdel. Le couple s'est séparé il y a quelques années déjà. La mère a été convaincue d'adultère et les 3 nouveaux enfants sont restés avec leur père.
Le père d'Abdel accable ou louange son fils. Dans l'un ou l'autre cas, il n'arrête pas de se justifier, comme si c'était lui qu'on accusait.
Si Abdel suivait les conseils de son père, il serait comme ses demi-frères, tous travailleurs et mariés aujourd'hui. Mais les enfants nés en Belgique sont paresseux, soupire-t-il. Il aime Abdel. Abdel est son fils, il ne peut que revenir dans le bon chemin. Le fait qu'Abdel se soit rendu montre qu'il s'est engagé sur la route de la rédemption.
Au terme de son audition, le père demande l'autorisation d'aller embrasser son fils. Le président accepte. Il se dirige vers Abdel, lui donne accolade et bénédiction. C'est un moment d'intense émotion. Le père s'en va alors, cassé et digne. On ne le reverra plus.
La mère d'Abdel avait 16 ans quand celui-ci est né. Elle déclare qu'elle aime ses enfants et son mari. C'est lui qui a voulu divorcer. Abdel est très intelligent et très généreux, mais il n'a jamais rien fait de bon à l'école. Il ne trouve pas de travail parce qu'il est immigré. Enfin, il n'est pas toujours très discipliné non plus. Il a toujours besoin d'argent, il en réclame sans cesse. Il a envie de beaux vêtements et de belles chaussures, il lui en faut toujours plus. Il est si gentil. Il cache toutes ses bêtises à ses parents pour ne pas leur faire de peine. Abdel, en tant que frère aîné, empêche sa sœur de sortir. Grâce à lui, elle est toujours vierge. C'est son devoir. La sœur de l'accusé témoigne à son tour. N'a-t-elle pas été battue par son frère ? Elle répond « Je méritais d'être giflée par mon frère, car je voulais sortir pour aller danser. » Le père ne se soucie pas de ses enfants, c'est Abdel qui l'a élevé.
La mère d'Abdel déclare qu'elle visite son fils en prison autant qu'il lui est permis. Abdel pleure sans arrêt. Le Coran pardonne tout, sauf tuer. Abdel n'a pas tué. Il s'est fait passer pour un homosexuel pour gagner un peu d'argent. Mais il ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec le monsieur. C'est pourquoi ce dernier l'a jeté à terre. Abdel n'a fait que se défendre. Elle conclut « J'aime mon fils, pour toujours. »
Le président rappelle que le parcours scolaire d'Abdel est affligeant. Il change d'établissement chaque année et aboutit en classe d'accueil où il échoue aussi. Il est envoyé en deuxième année d'enseignement professionnel, section mécanique. Il s'absente continuellement. C'est vers l'âge de 14 ans qu'Abdel commence à fréquenter de jeunes voyous et à commettre de multiples larcins. Il est placé à l'institution fermée de Wautier-Bren. En 1990, Abdel a 17 ans et est condamné par le tribunal de la jeunesse pour vol et recel, en bande, la nuit, et viol sur la personne d'une jeune fille âgée de 14 ans. En 1995, le tribunal correctionnel condamne Abdel à un emprisonnement de 18 mois pour vol et trafic de stupéfiants. Dans quelques mois, en octobre, il devra à nouveau être jugé pour vol et viol sur une jeune fille de 15 ans.
Comment être juge face à un tel gâchis ? Quels peuvent être les repères d'Abdel ? La culture d'origine représentée par un père meurtri par sa vie laborieuse et humainement absent ne livre plus que des références vides. La culture occidentale soumet son accueil des jeunes à des critères de réussite, soit dans l'école, soit dans le travail. En même temps, cette culture n'est fascinante que pour les signes de richesse et de pouvoir qu'elle sécrète. Abdel a à peine 24 ans. Mais il sait depuis longtemps qu'il ne pourra s'approprier ne fût-ce que des parcelles de richesse ou de pouvoir qu'en empruntant le chemin de la délinquance. Il se laisse chérir par sa mère qui l'admire et lui pardonne tout. Il enferme sa sœur pour être sûr qu'elle reste vierge et viole des filles plus jeunes qu'elle. Les psychiatres insistent sur le fait qu'Abdel est une sorte de psychopathe pervers, ignorant la loi. Il se fait lui-même sa propre loi. Ce qu'il veut, il doit l'avoir immédiatement pour en jouir. Beau et séduisant, il agit sans retenue morale et n'éprouve aucun regret quant au mal causé à autrui. Abdel est-il un pervers de bas étage? À quoi bon juger Abdel? Au départ du procès, j'en étais presque à regretter que l'accusé fût passé aux aveux, parce que cela éradiquait le frisson de l'investigation. Par la suite, j'ai pris mon plaisir à décrypter en esthète, puis en sociologue, le spectacle qui nous était offert par le procès. À présent, c'est la minute de vérité. Je me sens confronté à une réalité qui me dépasse et devant laquelle je me sens incapable d'assumer un rôle de juge.
Mercredi, 13h. Cantine du palais de justice.
Ce petit voyou ne mérite pas de pitié. Moi, je les connais bien, ces petits arabes. Jamais à l'école. Toujours achapardés. De plus en plus jeunes. De belles petites gueules, mais toujours affamantés de sales coups.
Ce n'est qu'une petite minorité. Et on trouve des vauriens chez les Belges aussi.
Dommage qu'on vienne d'abolir la peine de mort. Œil pour œil, dent pour dent. Qui donne la mort mérite la mort.
On fait tant de tralala pour des gens qui ne le méritent pas. On oublie toujours les victimes.
Vous exagérez. Abdel a quand même fait la démarche de revenir du Maroc et de se livrer à la police. Ce n'est pas rien, ça.
C'est vrai. Il pouvait très bien rester peinard au Maroc. Mais il voulait payer.
Moi, je vous dis, il était cuit au Maroc.
Oui, je suis persuadée qu'un mandat d'arrêt a été transmis au Maroc.
Quel mandat d'arrêt? Apparemment, les policiers ignoraient qu'Abdel s'était réfugié dans sa patrie d'origine.
Un mandat d'arrêt international, pour le moins. N'oubliez pas que ce garçon est poursuivi pour d'autres crimes. S'il est revenu du Maroc, c'est par calcul.
Ouais, et il s'est dit qu'en rentrant et en s'accusant, on allait avoir pitié de lui. Faut pas tomber dans le panneau.
Après tout, c'est peut-être vrai qu'il n'a fait que se défendre contre le diplomate qui l'agressait pour le sodomiser.
Un cochon, ce fonctionnaire de l'Union Européenne. Encore un qui se faisait la vie belle avec notre argent. Pour moi, il ne vaut pas mieux que le petit. Mais bon, paix à son âme.
C'est vrai que la victime est également responsable de ce qui est arrivé.
Oui, mais Abdel ne lui a laissé aucune chance. Vous avez vu comme moi les photos. Ligoter cet homme avec les fils du téléphone qu'il avait arrachés. Fermer la porte à clé. C'était le condamné à mourir.
S'il a pu se libérer à moitié et se traîner vers les toilettes, il a dû essayer d'alerter quelqu'un. Mais personne n'a entendu ses cris. C'est épouvantable.
Abdel avait beaucoup bu. Il a paniqué. Il est peut-être de bonne foi quand il dit qu'il a cru que le roi s'était endormi.
Il n'a pas perdu la tête du tout. Il a dérobé tout ce qu'il pouvait prendre. Il a soigneusement essuyé ses empreintes. Il a fait ses petites affaires pendant la nuit.
Un tel sang-froid indique qu'il n'était même pas perturbé par ce qui s'était passé, par ce qu'il avait fait. Oh, c'est monstrueux.
Il n'est pas si calculateur que cela. S'il n'avait pas abandonné la voiture de Leroy à proximité de chez lui, on ne l'aurait jamais attrapé.
Il n'a pas emporté la revue Spartacus ni les photos porno. Il est moins pervers que monsieur Leroy.
Excusez-moi, mais lui qui a violé des fillettes, il aurait bien mérité d'être violé à son tour.
Les photos de monsieur Leroy ne l'intéressaient pas parce qu'il n'est pas homosexuel. Il est trop macho pour cela.
Et puis quelle importance? Nous ne sommes pas des journalistes, que diable. Qu'on en finisse, ce vaurien doit payer, c'est tout.
Mais enfin, on va l'envoyer en prison pour des années. Là, il va rencontrer d'autres malfrats. La prison est criminogène. Il en sortira sans doute mûr pour le grand banditisme. Il est pris dans l'engrenage.
Mais que voulez-vous qu'on fasse? Moi, je crains qu'il ne soit pas amendable.
Mercredi après-midi.
La cour.
Au tour des proches de la victime de s'exprimer. Monsieur Leroy, de nationalité française, était un important fonctionnaire de la Commission européenne, chargé de missions diplomatiques dites sensibles, principalement dans les pays de l'Afrique du Nord qu'il connaissait bien. Sa passion était d'approfondir les cultures étrangères. C'était un érudit. Leroy était âgé de 56 ans au moment de son décès.
J'entends le conseil de famille énoncer « Monsieur Leroy était un homme lumineux » et conclure son intervention de manière théologique. « Monsieur le Président, nous avons entendu que le Dieu d'Abdel pardonne tout sauf le meurtre. Notre Dieu à nous, lui, pardonne même le meurtre. Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. »
Leroy résidait très rarement à Bruxelles. Le jour fatidique, il n'aurait d'ailleurs pas dû s'y trouver. Il avait été chargé d'une nouvelle mission en Algérie, mais son départ avait été retardé en raison d'attentats perpétrés à Alger. Audition de Madame Leroy, chargée de cour à la Sorbonne. Leroy et elle ont divorcé 8 ans auparavant. Elle savait que Leroy était homosexuel. Son homosexualité était sa différence. Elle gardait des relations avec son ex-mari. Elle dépeint ce dernier comme un homme modéré, un homme de la tolérance et du dialogue. Bien que physiquement robuste, il n'aurait jamais fait de mal à une mouche.
Un cousin de la victime est auditionné. On voit qu'il aimait beaucoup le roi. Il insiste sur le fait que le roi était un homme très fin. La mort de le roi dans cet appartement d'Ixelles, monsieur le président, c'est comme la mort de Pasolini sur la plage d'Ostie.
Mercredi soir.
Je me promène. Le soleil se couche dans la brume, le ciel s'embrase. Croisement d'émotions aujourd'hui. On est passé de l'atmosphère sordide d'un faubourg ravagé de la région bruxelloise à l'ambiance feutrée d'un élégant salon parisien. Le contraste est total. Là, la misère sociale et culturelle, les habits de tous les jours, un usage rudimentaire du français, l'accent bruxellois le plus vulgaire, les embrouilles lamentables, les quolibets sur les pédés de la place Fontenas, des chagrins qui explosent sans retenue. Ici, un deuil qui s'affiche dans le somptueux ensemble noir de la veuve voilée. Une maîtrise élégante du langage, l'accent parisien le plus châtié. On ne parle pas de divorce, mais d'éloignement volontaire. On ne parle pas d'homosexualité, mais de différence. Ces deux mondes ne se sont jamais mélangés lors des audiences. Le petit groupe parisien entoure la veuve au premier rang de l'espace disponible pour le public. On se tient bien droit. On donne les signes extérieurs de la dignité avant tout. On exprime ses sentiments par un frémissement de sourcils ou un délicat déplacement de main. La mère d'Abdel, elle, est assise au fond de la salle et s'agite sans cesse. Ses enfants et quelques amis l'entourent et la cajolent. On n'arrête pas de parler. À plusieurs reprises, la mère pleure ou cache son visage dans ses mains. Les sentiments s'expriment sans retenue. Je rêve d'une rencontre entre la veuve le roi et la mère d'Abdel. Elle n'aura évidemment jamais lieu. Je pense que ce qui les sépare irrémédiablement, ce n'est pas du tout que l'une soit la veuve de la victime et l'autre la mère du meurtrier. C'est surtout que leurs appartenances respectives de classe et donc leur champ de possible sont absolument différents, divergents. Même la mort et le chagrin ne brisent pas ces frontières-là. Hier, j'estimais que la forme du procès d'assises séduit souvent les dramaturges parce qu'elle est elle-même mise en scène spectaculaire. Aujourd'hui, je me dis que si le procès d'assises est une pièce de théâtre, c'est que la vie elle-même est dramatique, composée de hasards et de paradoxes, de connexions et de ruptures. Le superbe le roi, parvenu au fait de sa carrière diplomatique, parcourant le monde à la satisfaction de la Commission européenne, et le pitoyable Abdel, sans avenir, traînant dans les rues, à l'affût de n'importe quel mauvais coup pour approcher le miroir aux alouettes. Sur une planète qu'habitent des milliards d'humains, rien ne prédestinait ces deux personnages à se rencontrer place Fontenas à Bruxelles un jour d'octobre 1994. Là aussi je rêve. Et si la rencontre s'était passée autrement? Si chacun s'était expliqué dans ses besoins et ses souhaits? Si intelligence et pulsion avaient fait bon ménage? Si une autre histoire avait été tracée? Le passage à la violence meurtrière n'est-il pas l'indice inversé d'une intensité lumineuse possible? Pasolini y avait cru. La tragédie d'Ostie était-elle inéluctable ?